Radouane Louisser, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez de Port-Soudan, une ville où très peu de gens extérieurs ont eu accès jusqu'ici. En parlant d'un niveau de violence sans précédent au Soudan, qu'est-ce que les gens que vous avez rencontrés vous ont dit sur les violences qu'elles ont subies?
Écoutez, au Port-Soudan, la vie est plutôt calme, mais je peux vous assurer qu'après avoir rencontré des personnes déplacées de plusieurs autres régions du Soudan, et après une guerre fratricide qui a duré maintenant plus que 15 mois, le Soudan, en général, se trouve dans une situation humanitaire tragique.
La plupart des déplacés que vous avez rencontrés viennent de quelles régions, par exemple?
Ils viennent pratiquement de toutes les régions du Soudan, du Darfour, de Sennar, de Al Jazeera, de Blue Nile. Port-Soudan, aujourd'hui, est une zone où les gens trouvent au moins l'asile. Mais cela ne veut pas dire que les personnes déplacées là-bas trouvent leurs besoins essentiels en nourriture, en abri et en services de santé. Et il y a des millions de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire, y compris des millions qui sont au bord de la famine. Et il est choquant de voir cette situation dévastatrice sur un pays qui vient de se relever d'une révolution ou d'une rébellion massive contre une dictature et voilà qui se retrouve maintenant victime d'une guerre qui n'a aucun sens.
Parmi les témoignages que vous avez pu recueillir à Port-Soudan, est-ce qu'il y en a certains qui vous ont plus particulièrement touché?
Ce qui m'a touché le plus, ce sont évidemment la situation des enfants et des femmes enceintes et des vieillards. Les enfants se trouvent hors des bancs de l'école en millions depuis plus qu'une année. Ils sont dans un besoin total. Et le phénomène le plus choquant, à mon avis, dans ce conflit, c'est l'augmentation des cas d'abus et de violences sexuelles contre des femmes, des filles. Et je trouve, d'après les documentations que nous avons pu recueillir, il se trouve que les forces de support rapide sont devenues expertes en la matière.
Vous avez évoqué le cas de Al-Fasher, où la situation semble bien pire.
Je suis particulièrement inquiet sur la situation à El Fasher, au nord du Darfour, qui abrite 1,5 million de personnes, dont 800 000 personnes déplacées. C'est de voir le massacre sur une base ethnique opérée il y a quelques mois à Darfour Ouest contre les Soudanais massalites se répéter à El Fasher. D'autant plus que la ville est siégée par les forces d'intervention ou de support rapide. Et ce qui est également choquant, c'est de constater les opérations de recrutement d'enfants dans des opérations militaires.
Vous avez rencontré certaines autorités soudanaises à Port-Soudan. Qu'est-ce que vous leur avez demandé?
J'ai eu des rencontres à niveau élevé des autorités transitoires soudanaises, j'ai soulevé les quatre éléments suivants. A, la protection des civils. Cela veut dire le respect du droit humanitaire international. La deuxième demande est la facilitation de l'aide humanitaire, quelle que soit son origine, sa destination et à travers tous les points de passage possible. La troisième demande est la levée de la pression dont font l'objet les représentants de la société civile, les ONG, les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme, les avocats, dont plusieurs actuellement sont détenus sans aucun fondement valable. L'autre point que j'ai soulevé est la délimitation de la responsabilité et la sécession de l'impunité qui a malheureusement caractérisé la vie publique au Soudan pendant des décennies.
Est-ce que ces autorités que vous avez rencontrées se sont engagées à quelque chose?
J'ai pu exprimer tout ce que je pensais de la situation des droits de l'homme au Soudan. Je n'ai pas manqué de leur dire ce que nous pensons sur les abus qu'ils facilitent ou qu'ils tolèrent ou qu'ils permettent de se dérouler. Et là, je pense qu'ils ont manifesté une certaine compréhension pour la question de facilitation de l'aide humanitaire, sur la protection des civils et peut-être la nécessité de donner des instructions à leurs membres de respecter davantage les règles du droit humanitaire.
Ce sont pourtant ces mêmes autorités qui empêchent dans certaines zones les convois humanitaires d'accéder aux zones contrôlées par les hommes de Hemeti. Est-ce que ce n'est pas contradictoire?
Il y a eu une flexibilité notable dans les semaines récentes sur cette question. Il y a certains points de passage, comme le point de passage ou la frontière avec le Tchad. Ils estiment qu'il y a des armements, des équipements militaires qui sont passés sous le couvert d'aide humanitaire par ces points-là. Il y a d'autres zones contrôlées par le RSF qui sont également difficiles à accéder. Mais nous avons noté qu'il y a plus de flexibilité sur la question du visa pour le personnel humanitaire international, Nations Unies ou ONG. Il y a une plus grande flexibilité que nous avons notée sur le mouvement des convois humanitaires.
Vous avez dit aux autorités que vous avez rencontrées, d'après votre communiqué, vous leur avez demandé de s'engager à permettre un accès sans entrave à l'aide humanitaire. Et pourtant, la partie gouvernementale semble plutôt réticente à prendre part aux discussions ouvertes depuis la semaine dernière à Genève. Est-ce qu'il y a une évolution sur ce point?
Je ne peux pas vraiment faire de commentaires sur les positions plutôt politiques des partis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les deux parties de cette guerre arrêter le massacre, rappeler à leurs membres que même la guerre a ses règles, de protéger les civils, de faciliter l'aide humanitaire, de punir les auteurs de violations et abus, et de laisser les membres de la société civile accomplir leur noble mission. Et je dois saisir cette occasion, cher monsieur, pour appeler les États influents sur le Soudan de mener les deux parties autour d'une table pour négocier la paix et écouter les cris des Soudanais qui demandent du secours et qui demandent la paix.
Vous l'avez reconnu vous-même, sur la question de la violence, il n'y a pas eu d'évolution. Est-ce que l'heure des sanctions n'a pas encore sonné pour les deux grands responsables de cette crise?
Cette question, vous la posez au Conseil de sécurité. Nous sommes intéressés par les conditions des droits de l'homme au Soudan et nous continuerons à militer pour l'amélioration de ces conditions.
Vous parlez dans votre communiqué d'un niveau de violence sans précédent, épouvantable au Soudan. Et on constate de l'autre côté que la communauté internationale ne s'est contentée jusqu'ici que d'une réponse molle. Est-ce que quelque part, elle n'a pas une certaine responsabilité dans ce qui se passe en laissant faire les deux parties?
Ce n'est pas à moi de juger. Moi, je sollicite juste une attention plus claire sur la situation au Soudan. C'est une situation humanitaire très douloureuse, tragique et sans précédent. Et il ne faut pas que cela continue. Et il faut que l'aide vienne de tous côtés. Vous savez, cher monsieur, que à ce jour, mi-juillet, le programme humanitaire pour le Soudan pour 2024 est financé au niveau de 17,6%. Malgré la conférence ou la réunion de Paris du 15 avril, plusieurs promesses n'ont pas été tenues et il y a un manque sérieux dans le financement de ce programme. Il est temps que les pays donateurs et généreux déboursent leurs promesses et financent la réponse humanitaire. On n'a plus le temps.
Radouane Louisser, merci.
Merci, monsieur.